Hello.
Hello.
Coucou.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Patrice dans ce studio.
Maintenant, je suis invité.
On t'a invité pour nous parler de Donjons et Dragons, le film.
Ouais, avec Sébastien, qui va répondre à mes questions tordues.
Vous l'avez vu tous les deux, vous?
Ouais.
Ouais, j'ai pas le temps.
Tu prends pas le temps, tu veux dire.
Sébastien, je vois que t'as ramené un livre-jeu Donjons et Dragons, non?
Oui, en plus que j'avais trouvé à l'ancienne boutique Phénomène J, donc rue Montaud. Donc un petit clin d'œil à Jean-Hugues.
Et ouais, c'est vrai qu'il y avait une série de livres jeux tirés, enfin, qu'on avait à... C'était quoi? C'était un truc américain qui était traduit en français chez Solar, c'est ça, non?
La maison d'édition française Solar, et ouais. C'était SR qui avait récupéré pas mal de licences, dont Donjons et Dragons, Conan, Tarzan. Ouais.
Une belle série. Et puis, en deuxième partie d'émission, on aura l'interview de Rakam Leroux, qu'on a enregistré à l'Angers Geek Fest. Je vous ferai un petit débrief sur ce grand raout dont nous sommes sortis précipitamment la dernière fois. On n'avait pas fait d'émission, donc voilà. C'est notre émission post-AGF. Et je vous propose qu'on commence tout de suite en musique avec justement le générique de fin de Donjons et Dragons, le film, mais version originale. C'est un morceau de Tame Impala qui s'appelle Wings of Time. C'est parti. Générique de fin du dernier film Donjons et Dragons que tu as vu, Patrice.
Bah que Sébastien aussi a vu.
Vous m'avez spoilé toutes les blagues pendant ce morceau.
Non, pas tout à fait.
Il y en a tellement.
C'est vrai, ah merde.
Il y en a une tonne.
Ah bon, ok. Mais
non, il n'y a pas que ça. Avant de démarrer un peu sur la discussion sur ce film,
ouais.
Si vous voulez bien, on va faire une petite rétrospective
oui,
de ce
bah,
que c'est
boulot.
Que Donjon. Non, mais rapide, hein, okay. De ce que c'est que Donjon et Dragon. Alors déjà, Donjon et Dragon en français, on voit Donjon, on a l'impression que c'est en aérien. En fait, la plupart des aventures se passent en sous-sol. Pourquoi? Parce que c'est Dungeons en anglais, qui veut dire oubliette, cache au souterrain ou cul de basse-fosse. Donc Dungeons and Dragons, c'est plutôt voilà cachot et dragon. Donc ce qui explique effectivement que ça soit des aventures souterraines. Alors c'est un jeu de rôle qui a été créé en 74 par Gary Gygax et Dave Arneson. Ils sont deux. On se souvient souvent de Gary Gygax. Et qui a été édité par TSR au début. D'ailleurs, Romain, toi qui sais tout, tu vas sans doute nous dire qu'est-ce que ça veut dire TSR.
Ah merde.
Hein, toi qui es un fanat de rétro-jeux.
Un gros trou.
Mais moi, je savais pas.
Sébastien est en train de chercher dans son bouquin.
C'est
pas écrit.
Tactical Studies Rules.
Waouh.
Ensuite, ça a été repris par Wizards of the Coast en l'an 2000, qui venait d'être racheté un an avant par Hasbro. Hasbro, qu'on connaît aussi avec les figurines, G.I. Joe, qui a aussi fait d'ailleurs les films de G.I. Joe. Et donc, venons-en au film. Il y a eu un premier film en 2000, Donjons et Dragons, avec Jeremy Irons. Donc un bon acteur, mais alors ce film a été catalogué dans les pires films. Alors j'ai regardé un peu sur Wikipédia, il y a tout un tas de pires musique, pires acteurs, pire tout ce que tu veux. Oui.
Je l'ai pas vu, mais
il a été très
pires effets spéciaux peut-être aussi. Je sais pas, c'est important quand tu fais un film de fantasy.
Ensuite, il y en a eu la suite de ce premier. Alors, c'était pas Hasbro qui les produisait, ceux-là.
Ça les a pas découragés, en tout cas.
En 2005, il y a eu la suite qui s'appelait La Puissance Suprême et qui était un peu plus proche de l'esprit du jeu de rôle parce que quand on regarde le film, on peut mieux se rendre compte des classes de personnages un peu telles qu'on les approche dans le Donjon et Dragon.
Un peu stéréotypé.
Voilà, mais qui n'a pas eu non plus un succès fou. Et donc, nous revoilà en 2023, donc quand même un peu plus tard, avec un troisième film, L'Honneur des voleurs, et là, celui-là, produit par Hasbro. Donc là,
c'est logique. Dans
en fait, il y en a eu trois avant. T'en as oublié un qui doit
un dessin
être
animé, non?
Non, un autre film. Il y en a eu trois, Donjons et Dragons. Le Livre des Ténèbres, un truc du genre. Mais ça doit être tellement pire que le souvenir s'est effacé.
Le pire du pire.
Non, j'ai vu qu'il y avait, il me semble aussi, dans les donjons, qu'il y avait eu des dessins animés, des trucs comme ça. Mais
moi, je connaissais le dessin animé dans les années 80. D'ailleurs, c'est Dorothée qui chantait le générique. Je vous le passerai pas ce soir. Mais
je pense qu'on va avoir une série dans le même style que Le Seigneur des Anneaux.
Ah oui, d'accord. Série live. Ok. Ouais. Parce qu'il y a des youtubeurs, on peut dire, de jeux de rôle, Tactical Role, je crois, américain. Enfin, il me semble que ça part de la cinquième édition de Donjons & Dragons. Et en fait, leur scénario, il y a un projet d'adaptation en série animée. Mais je sais pas trop où c'en est. Je ne suis pas trop ces trucs-là.
Donc, avec ce dernier film, avec, pour citer des acteurs un peu connus,
Grant sur l'affiche,
et Michel Rodriguez, qui joue une sorte de Conan le barbare au féminin. Je dirais.
Oh, la barbe.
Qui est connu pour avoir, pour plein de choses, mais enfin.
Mais dans des films d'action, surtout.
Fast and Furious, elle a fait beaucoup de rôles dans Fast and Furious, je crois bien. Et un Resident Evil avec Mila Jovovich. Voilà. Donc, est-ce que celui-là va avoir plus de succès? Alors, Sébastien, j'ai envie de te poser une première question. Toi qui l'as vu, tu l'as vu en français.
Oui.
Ah, en version française. Moi aussi. Est-ce que la voix des personnages, notamment du héros, ne t'a pas gêné? Moi, j'avoue que c'est un truc qui m'a frappé, c'est que.
Moi, j'apprécie l'acteur qui a joué dans les nouveaux Star Trek, les films. Donc, pour moi, la voix semble la même que.
C'est peut-être la même en plus.
Ouais, c'est la même que celle que je connaissais dans les Star Trek. Donc, ça m'a pas si dérangé que ça. Mais c'est vrai que comme c'est un barde, lorsqu'il se mettait à chanter, je trouvais pas vraiment qu'il avait. Lui, il est de la classe des ménestrels et qu'il avait pas une voix vraiment qui collait avec sa classe.
Alors moi, c'était plutôt du côté qu'il joue un personnage barde et voleur quand même. Donc, c'est à la fois un personnage qu'on ressent sensible par certains moments, mais qui est filou à d'autres. Et moi, qui m'a donné l'impression, alors dans la version française, c'est pour ça que je parle de ça, c'est d'être décalé dans sa manière de parler, d'être complètement décalé. C'est très difficile de rendre un personnage un peu double comme ça, je trouve. Et j'ai l'impression que la personne qui doublait était à côté de ses pompes, quoi. Ça m'a un peu gêné, le truc. Bon, ça, c'est un détail. Il faudrait que je le revoie en VO pour me rendre compte si l'acteur est mieux.
Pire doublage.
Ouais. Je sais pas, mais on sait bien que des fois, quand on a des doublages français, tu vois, je reprenais un exemple, bon, c'est une parenthèse, dans Battlestar Galactica, il y a Edward James Olmos, là, qui joue l'amiral, qui a, il est extraordinaire, cet acteur. il a la survie de l'humanité sur ses épaules et en même temps c'est un gars sensible. De temps en temps il joue les deux, c'est extraordinaire. J'ai eu la curiosité de le repasser en français. Je me sauve en courant, quoi. Donc c'est pour ça que je dis voilà, bon. Donc voilà.
Mais la voix, Patrice, par contre, de son ancien collègue, qui est le roi d'un royaume.
Oui, bah, c'est je trouve qu'il Grant,
a, ouais, Grant, il a une voix, justement, celui qui double, on sent bien le côté chenapant dans la voix.
Ouais, alors il est presque un peu trop rigolo, quoi. Parce que c'est presque un peu le bouffon, le gars qui est méchant, mais dont on sait bien qu'il va forcément se faire avoir un jour ou l'autre. Voilà. Bon. Ça, c'est un détail sur la version française, donc là, je peux pas juger sur la version originale. Alors, après, parlons du scénario. Vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé? Les péripéties, tout ça, ça t'a accroché, tu t'es ennuyé, tu...
Moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Ça m'a toujours, j'ai toujours accroché au film. J'ai pas eu de moment où je me suis ennuyé. J'ai bien aimé le monde dans lequel on est. Sauf que c'est les décors qui sont plutôt majestueux. On les voit par moments fugaces. Mmh. On n'a pas le temps vraiment de les admirer que déjà c'est passé. J'ai beaucoup aimé le traitement de certains personnages, davantage le personnage qui serait mal doublé là, le Ed Gein. J'aime bien parce qu'il va, comme Simon, ils vont apprendre aussi à changer. Bon, Simon, c'est le sorcier avec qui il fait équipe, qui va prendre confiance en lui-même pour pouvoir mieux contrôler sa magie. Et c'est dur aussi la belle druidesse qui fait équipe avec eux.
C'est bien celle-là.
Et Ed Gein, vraiment, il a au début, il vole, mais en fait, c'est aussi, c'est son côté filou. Mais en même temps, il voulait le meilleur pour donc sa famille. Il va tout perdre et il va se rendre compte.
Enfin,
je veux pas tout. Voilà. Il va se rendre compte aussi que c'est un bon ménestrel et qu'il va pouvoir donc faire des choses bien par rapport à son ancien collègue qui lui s'enfonce.
Moi, j'ai trouvé que alors le scénario, pareil que toi, je me suis pas ennuyé, mais en fait, quand on regarde, il y a rien d'original. Alors, attention, je veux pas dire qu'il faut absolument que ça soit original pour que ça soit bien, mais on retrouve les ingrédients qu'il faut dans un film d'heroic fantasy, etc.
Et alors, est-ce qu'on retrouve les ingrédients?
Et je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on en retrouve beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est parce qu'on s'appesantit pas, il y a énormément de séquences, ça change, ça bouge beaucoup, et du coup là, on est vraiment entraîné dans l'histoire, parce que ça bouge, parce qu'effectivement, on change d'endroit, on change de père, on découvre des tas de choses, etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et je dirais qu'effectivement, on retrouve notamment le bestiaire Donjons et Dragons. Ça, c'est pour ça que je dirais, c'est un film qui s'adresse c'est un film pour ados joueurs de Donjons et Dragons.
Ok.
Avec des variantes humoristiques, on sent trop spoiler, mais on a un dragon quand même, Patrice, à un moment donné, qui m'a fait esclaffer de rire. Et vraiment, il est bien mis en scène et c'est trop drôle. Quoi.
Les effets spéciaux sont bien faits. On peut dire qu'il y a ce qu'il faut. C'est bien inclus dans l'histoire, donc on rentre bien dedans, il y a tout ce qu'il faut, de magie, de tout ce que tu veux, etc. Et tout. Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec toi sur les personnages. Donc pas d'originalité. On sait à quoi on va s'attendre. On n'a pas trop de surprises. On sait, il y a du suspense, mais bon, j'aurais presque du faux suspense. On se dit bon, les héros ils vont s'en sortir, quoi. C'est pas du film noir, donc. Oui. Mais c'est pas gênant parce qu'on a envie en même temps que de les voir continuer dans leur histoire, de les voir se friter, se réconcilier, etc. Bon, ça fait partie du jeu du film. Ça m'a pas gêné non plus. Et les personnages en eux-mêmes, hein, si j'accepte les histoires de voix, c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas. On n'est pas dans le film. Alors, il y a une équipe, hein, c'est un peu, il y a une équipe donc qui va se constituer petit à petit. Mais on n'est pas dans le genre au début comme dans je sais plus quoi.
Mission impossible.
T'as l'équipe dès le départ. Là, ça va être plus un petit peu dans le petit à petit, progressivement. Il y a deux personnages qui sont liés dès le départ et il y a effectivement de l'humour. Ça, c'est vrai. Notamment un passage extraordinaire avec les 5 questions aux morts, j'en dis pas plus parce que bon, de toute façon c'est dans la bande annonce.
Ah oui, ça c'est très drôle.
Ça m'a beaucoup fait rigoler.
Il faut regarder jusqu'à la fin parce que il y a même une scène dans le cimetière qui se retrouve.
Après le générique.
Après Mylène Farmer.
Donc voilà. Ça va. Donc je pense que je suis d'accord avec toi, ça se laisse bien voir, on s'ennuie pas. Et on retrouve, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne sont pas des joueurs de Donjons et Dragons, ils vont peut-être être un peu...
Ou ils vont peut-être passer à côté de certains
passer
trucs.
Passer à côté de certains trucs et peut-être pas voir tous les clins d'œil et pas... Et puis trouver que c'est peut-être un peu basique, quoi. Alors on retrouve dans les bestiaires, c'est vrai qu'on trouve le mimique, enfin moi ce que j'appelle le mimique, je sais plus si c'est ça, le coffre, qui, enfin,
ah,
le
oui,
monstre qui se transforme en coffre. Là,
ça c'est vachement ça. Bien fait.
Et puis toi tu m'avais dit, Romain, que t'avais...
Je sais pas, il y a un flagelleur mental, non?
Oui,
comme alors ça, oui, et on le voit dans le Donjon du Mal, c'est un dévoreur d'intellect. Et on le voit dans le film, donc même dans les livres donc inspirés de Donjons et Dragons, on retrouve de ce bestiaire dans le film. Et le côté souterrain, dans le Donjon de l'Effroi, effectivement on rentre dans un souterrain.
Bon, mais c'est un bon divertissement. Moi, je crache pas dans la soupe, comme on dit.
Alors, est-ce que ça donne envie de jouer au jeu de rôle?
Moi, pas plus, parce que j'y ai déjà joué. Ouais, et puis, j'ai abandonné les jeux avec dés parce que je trouve que c'est un peu gonflant. C'est pour ça que je suis passé aux soirées enquêtes ou à ces choses-là où tu peux vraiment donner libre cours à l'interprétation.
Ok, il y a trop de hasard pour toi
Non, c'est pas trop de hasard, mais je trouve que le même si je comprends bien que dans un jeu de rôle, il faut des règles. Finalement, au bout d'un moment, même quand j'étais maître du donjon, il y a un moment, je jetais les dés, mais je m'en fichais. Quoi. Ouais, ce qui m'importait, c'était de faire vivre l'aventure aux joueurs qui étaient devant, peu importait le résultat. Si on a un qui est tué, c'est pas drôle. Quoi. Moi, c'était le scénario que je voulais leur faire vivre, plus que le hasard des...
Oui, bien sûr.
Donc, c'était plus porté. Après, est-ce que le film donne envie de jouer au jeu?
On verra.
En général, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. C'est plutôt les joueurs. Moi, j'avais toute une ribambelle d'ados derrière moi qui étaient des joueurs de Donjons et Dragons qui faisaient des remarques à la sortie. Ah, tiens, ils auraient pu mettre ci, ils auraient pu mettre ça.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc, bon. Je pense que ceux qui aiment bien l'univers de Donjons et Dragons vont s'y retrouver, auront plaisir à replonger dans cette histoire. Qui est une histoire quand même, bon voilà, je dis pas originale, mais bien ficelée avec le scénario se tient bien.
Moi, justement, pourtant, je suis pas rôliste, même si depuis quelque temps, je refais des parties, je découvre l'œil noir en jeu de rôle, ce que je connaissais en livre-jeu. Mmh. Bah, justement, ça pourrait me donner envie, le film, de faire des parties de Donjons et Dragons par rapport, là, non pas qu'aux personnages, mais par rapport à des objets qui ont certains pouvoirs. Je pense au home de Disjonction. Et aussi, il y a Simon, le sorcier, rappelle-toi, Patrice, qui découvre un sceptre. Il va pouvoir ouvrir.
Comment il appelle ça, le ici-là? Je sais plus comment, le ici-là-bas, je sais plus quoi. Mais...
C'est-à-dire qu'en fait, il crée un accès.
C'est typiquement.
Mais il faut qu'il le voie, il se retrouve après projeté pour
c'est
passer.
C'est typiquement le pouvoir de Doctor Who dans les Marvel, hein.
Et ça, j'aime bien, parce que ça me donne envie, justement, d'incarner des personnages qui ont un certain niveau. Ouais. Pour pouvoir utiliser ce genre de pouvoir et voir ce que ça donne dans une partie. Ça,
tu vois, Docteur Who dans les Marvel, il fait des cercles, il rentre dans un endroit. Et
oui, bah ça, voilà, c'est typiquement tout à fait,
c'est typiquement ce pouvoir-là.
Voilà, c'est en rapport à ça. Ouais.
Mais il y a des gags à partir de ça qui sont assez bien vus. Oui.
Voilà. Ok, super. Bon, on vous conseille donc d'aller le voir. Je vais y aller. Moi, le premier.
Comme ça, tu pourras nous en dire du mal la prochaine fois si t'as pas aimé.
Un bon film, et je pense qu'il y aura une suite comme
ah oui, voilà,
ça rencontre
vous
le succès. Ouais.
Est-ce que ils ont laissé, est-ce que vous pensez c'est, que
oui, la fin reste ouverte et tout, ils vont refaire un peu, il y a un côté familial quand même dans le film qui est très sympathique, quand même qui est bien développé, je trouve.
Donc à partir de 10 ans,
il y a de bonnes valeurs et la fin elle est plutôt ouverte.
Oui, c'est pour tout public, c'est un film tout public, même
et les méchants, les magiciennes, magiciens rouges peuvent revenir et encore causer du mal.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire complète. C'est pas comme un truc où ça se termine, on dit il va y avoir une suite. Donc il peut ne pas y avoir de suite, mais si on a une, on peut faire dans le même univers avec les mêmes personnages une autre aventure, quoi.
Ok. Et à propos des livres-jeux Donjons et Dragons qui étaient sortis dans les années 80,
chez Solar.
Et t'as fait un article dessus, Sébastien, dans notre fanzine.
Oui, donc qui est présent dans la tête dans le donjon, je pense, 3.
Ouais.
Je parle rapidement donc de certains quêtes sans fin, dont Conan. Et de la rançon du dragon. Et prochainement, dans le nouveau tête dans le donjon, donc j'annonce à nos auditeurs, une petite exclue, que je parlerai donc des parties donjon dans le nouveau défi fantastique de Steve Jackson.
Ah oui.
Un événement pour la sortie
Steve
en mai.
Steve Jackson est encore de ce monde.
Et il sort
le mystère
défi
de Salamonis.
Ok. Ouais. Et ça sort quand?
En courant mai.
En français donc.
Donc en français, donc chez Gallimard.
Ouais. Ok.
Une belle surprise.
Donc notre fanzine La Tête dans le Donjon, qu'on peut trouver au moins en PDF sur le site d'Imaginaire à la rubrique fanzine. Les versions papier, on avait tiré une centaine d'exemplaires, donc je sais pas, peut-être aller voir à la Chaumière du bout des rêves, il en reste que quelques-uns. Et la couverture de ce numéro 3 d'ailleurs était de Raka Bleu.
Oui,
ça tombe bien parce qu'on va écouter son interview dans quelques minutes.
Ben mais Steve Action, effectivement, il est né la même année que moi, donc il est encore de ce monde.
Et puis on se refait une pause musicale, mais alors cette fois on s'écoute The Blears, donc groupe de pop rock angevin qui viendront jouer au Salon Imaginaire le samedi 13 mai prochain.
Voilà, je les avais découverts à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, à l'occasion d'un concert de clôture pour la nuit de la lecture, et moi ça m'avait emballé parce qu'ils arrivent comme ça à accrocher le public, ils ont une pop rock vitaminée, et là Romain, ils vont nous passer un petit bijou. Diamond,
leur nouveau single, et ils nous ont enregistré une petite présentation. D'ailleurs, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Salut, c'est The Blears sur Radio G. On est fiers de vous présenter notre dernier single Diamond, disponible sur toutes les plateformes. Et on se donne rendez-vous le 13 mai pour notre concert au Salon de l'Imaginaire.
Changed my life at 19, whoa. You changed my life, whoa. Can't stop looking at you, whoa. The most beautiful girl I knew, whoa. I mean love, that's true, whoa.
The Blears, donc, dans Imaginaire, sur le 101.5, un son presque californien, moi, je trouve. Ils sont angevins, hein?
Oui, d'Angers, et on aura la joie, Romain, donc, le 2 mai, d'avoir Ivan et Tristan, le chanteur, le guitariste.
Ouais.
Donc,
dans
venir,
notre prochaine émission.
Voilà, nous raconter un petit peu la genèse, et aussi la sortie prochaine, courant, dans l'été, donc de leur tout premier album.
Et je crois qu'il passe aux variétés aussi avant de venir chez nous.
Tout à fait, le 27 avril. Donc, si vous voulez déjà avoir une première approche du groupe, donc c'est ça des coiffes et c'est aux variétés à 21h.
Super. Et dans notre prochaine émission, on accueillera aussi Candice Roger qui nous a fait notre visuel de cette année. Vous avez peut-être déjà vu nos affiches ou nos marque-pages flyers. Vous verrez bientôt notre livre, l'anthologie Double Jeu, qu'on sortira donc pour le Salon Imaginaire, qui sera dispo, qui est déjà dispo en souscription. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site d'Imaginaire, payer en ligne, vous l'aurez un petit peu moins cher. Et je devais vous parler aussi de l'Angers Geek Fest avant de passer à l'interview de Rakam Leroux qu'on a interviewé là-bas. Donc on avait le studio mobile en fait de Radio G à l'entrée du... Ah bah oui, tu t'es passé d'ailleurs nous voir Patrice le samedi de l'Angers Geek Fest. Donc on en a profité pour faire des interviews. Donc Rakam Leroux et puis on a aussi interviewé Aurélie Wallenstein et Karim Berouka avant leur table ronde que Pierre-Marie avait animé avec brio, paraît-il, et tout. En plus, la salle était pleine, on était contents. Il y avait du monde, d'ailleurs, à l'Angers Geek Fest. Je sais pas comment t'as ressenti ça, toi, Patrice, cette année, mais bon. Ah bah attends, j'ai pas allumé ton micro, là. Bah, il est où? Ah bah t'es là, Force Blanche.
Je suis là.
Force Blanche.
Il m'a mutilisé. Non, mais il y avait du... J'allais dire, comme d'habitude, il y a toujours beaucoup de monde.
Ouais, alors là, ils sont montés à 15 000 personnes. Hein. Je crois que c'est quand même, sur le week-end, je pense que c'est un record.
À l'heure où j'y étais, quand je suis parti, la file d'attente à l'entrée était 10 fois plus longue que quand je suis arrivé. Donc, il y avait peut-être plus de monde l'après-midi.
Ouais, c'était le veto, c'était bien. Et les gens venaient aussi peut-être aussi pas mal l'après-midi pour le défilé et le concours cosplay. J'imagine que ça attire du monde. D'ailleurs, sur la grande scène, moi, j'ai pas... trop pu sortir du stand en fait, hein. On a été bien occupés, j'ai quand même vu le concert des classes du conservatoire, c'était très sympa, qui nous faisait des génériques de films geeks, et puis Portal Wombat, je crois, un groupe parisien qui jouait avec des DS, et qui avait fait plein de petits clips un peu en mode 8 bits sur leurs morceaux, c'était assez marrant, ils reprenaient aussi des morceaux de... notamment de musique de jeux vidéo. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau aussi parmi, on va dire, tous les illustrateurs et artisans, en fait, hein, de l'imaginaire. Il y avait des belles expos aussi, notamment côté manga animé. Et donc, notre deuxième table ronde, c'était avec... Étienne Barillet et puis j'ai oublié son nom, bref.
Étienne Barillet qui a fait
sur le steampunk et le cyberpunk, et en fait on
spécialiste
a
de Philippe Cadic, Étienne Barillet.
Ouais, et il avait ce qui était rigolo, c'était sur le stand en face de nous, Banquise et Comète, qu'on connaît bien de Saumur. Il y avait aussi Arthur Morgan qui est un spécialiste de steampunk, un Lillois qui était descendu pour cet événement. Notamment parce qu'il avait fait la préface des 500 millions de la Bégom, c'est ça, ou je me trompe? Il y en a peut-être que 50.
Non, c'est 500 millions.
Ouais.
500 millions.
Jules Verne réédité par Banquise et Comète, donc avec préface d'Arthur Morgan et une couverture de Ronald de Pousseau aussi, qu'on connaît bien l'imaginaire. Et Étienne et Arthur, qui étaient sur le stand en face, ont aussi écrit tous les deux un guide de la France steampunk, qui avait fait pas mal parler dans le milieu. Il paraît même que Tim Powers, l'Américain qui est un peu à l'origine du style, en a un exemplaire chez lui. Donc on a fait une petite interview aussi, on les a topés tous les deux, et puis on a fait une petite interview de dimanche matin aussi, qu'on vous diffusera dans une prochaine émission. Et puis sur notre stand, on avait aussi Guillaume Albin, le dessinateur de Noël Buck, et qui a un projet qui va bientôt sortir de fou lancement d'une bande dessinée. Alors c'est entre les Schtroumpfs et Blade Runner. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle.
C'est plutôt Schtroumpf ou c'est plutôt Blade Runner?
En fait, c'est un peu Schtroumpf Runner 2072, quelque chose comme ça. Il avait une très jolie PLV. D'ailleurs, il y avait plein de gens qui venaient sur notre stand. Ouais, où est-ce qu'on le trouve, cette BD avec les Schtroumpfs cyberpunk et tout? Et on était là. Bah, non, en fait, c'est pas du tout sorti. Guillaume était même encore en train de faire des croquis. Et le truc, c'est que son scénariste aussi était là, notamment à l'Angers Geek Fest. Donc, on a fait une interview ou deux. Alors après, ce sera peut-être diffusé dans la case de Seb aussi. On a un petit peu mélangé les émissions de Radio G, Il y avait aussi Génération, je sais plus comment il s'appelle, enfin la caisse de Judy. Enfin, il y a pas mal d'émissions en fait qui faisaient.
Et parlant de Seb, vite fait, est-ce que t'as des retours là de ce qu'il voulait faire, son jeu de rôle en action?
Ah oui, on a participé d'ailleurs avec Patrice à son cadavre exquis rôlistique. Je sais pas, peut-être que
à brûle pour point.
Ça se trouve, ça va être diffusé dans Radio G dans 40 minutes, peut-être tout à l'heure dans les voix du Scénarium. Et d'ailleurs, tu fais bien en parler, parce que en fait, on a réalisé cette interview de Racam Le Roux tous les deux d'ailleurs. Donc, vous allez entendre sa voix et je crois qu'il est l'heure quand même qu'on lance ça dans Imaginaire sur le 101.5, parce que sinon, on va pas avoir le temps de l'écouter en entier. On se retrouve tout à l'heure pour parler de l'agenda. C'est parti. Notre premier invité aujourd'hui à l'Angers Geek Fest, Racam Le Roux.
Bonjour Romain.
Ça va?
Très bien. Racam.
Il y a du monde.
Salut.
Je vais commencer avec une anecdote. En fait, j'arrive pas à imprimer ton pseudo. Parce que pour moi, c'est Tintin qui sort en premier. En fait, Racam Le Rouge d'abord. J'imagine que beaucoup de gens te le font.
Mais ça vient de là, en fait. C'est à la base, c'est un blast donné par des copains. Bon, je suis roux, on n'invente rien. Mais bon, j'adore Tintin. Voilà, Racam Le Rouge. Et c'est resté comme ça, en fait.
Bon, bah. On le retient bien comme ça,
Les gens le retiennent bien. Après, quand ils me voient, bah, je vieillis. Donc maintenant, c'est plus paprika. Donc voilà. Mais je continue de le garder. Je ferai comme Gandalf, je changerai. Au bout d'un moment, ça sera Racam le gris.
Racam paprika.
Ou voilà, paprika, puis après Racam le gris. Voilà.
Alors parlons de Racam Le Roux. Illustrateur.
Tout à fait.
Auteur aussi.
Rôliste.
Également. Voilà. Illustrateur de jeunesse. Ouais, multifacette. Enfin, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'aime bien varier les plaisirs.
C'est parti comment tout ça?
Le dessin, tout simplement. Depuis tout petit, je dessine et j'ai toujours adoré dessiner. J'ai eu un amour fou des livres dont vous êtes le héros. J'ai découvert ça chez ma grand-mère par hasard. Elle m'a donné un livre. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dedans et elle l'a regretté. C'était La Sorcière des Neiges à l'époque.
Ouais.
Donc l'illustration de la goule m'avait quand même marqué parce qu'elle était belle et effrayante à la fois. Et je me suis dit, c'est cool. Plus tard, j'ai envie de dessiner ça, quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai pu faire 3 fascicules de jeux de rôle avec l'association Fondu au Noir. Le 3e est sorti en édition physique cette semaine.
Tout frais, quoi.
Ouais, je l'ai reçu hier dans la boîte aux lettres. Donc, assez content. Donc,
on commence par parler de ça, peut-être. Est-ce que tu peux nous présenter l'association déjà, Fondu au Noir?
Alors, Fondu au Noir, composé de Caroline de Beneditti et d'Emeric Cloche, en fait, qui sont spécialisés dans le polar. Emeric, en fait, est un gros rôliste. Il a beaucoup de scénarios sous le coude et il a décidé de les éditer en édition physique. En fait, il cherchait un illustrateur et on a pris contact ensemble pendant le confinement. Alors, il savait, pour lui, il était persuadé que j'étais canadien. Je ne sais pas pourquoi. Racam Le Roux, pour lui, ça lui évoquait le Canada. Voilà. Et ça a très bien matché. On a fait l'Arbre au cœur, le premier fascicule, qui a été épuisé. Les éditions physiques, il n'y en a plus. Oh, le Chewbacca est magnifique. Hein. Et suite au succès du premier, bah on a rempilé pour Le Vent sur la frontière, le deuxième qui était un peu plus dense, ouais. En termes de narration, pas forcément en termes d'illustration. Puis le troisième, L'île aux fleurs, un fascicule un peu moins dense, mais. Le scénario risque de surprendre pas mal de joueurs et de joueuses. Donc voilà.
Donc des scénarios génériques, hein, on peut les adapter à
complètement.
C'est tout système de jeu.
Ouais, transposable dans la plupart des univers d'Heroic Fantasy. Après, ça prend de base des règles de Donjons et Dragons.
Ok, compatible avec la cinquième.
Cinquième, ouais.
Et je me demandais si les 3 fascicules étaient liés ou pas.
Il y a
la campagne.
Il y a un lien, en fait.
Okay.
Il y a un lien, on a fait l'automne, l'hiver, et là c'est le printemps pour l'île aux fleurs. Donc,
il y aura un quatrième.
Le quatrième, ce sera l'été. Il aura un nom qui peut peut-être changer. Ce sera les Sables Rouges. Après, à voir avec Emeric s'il continue de garder ce nom-là. Mais je pense qu'il sera en chantier d'ici peu, quoi.
Donc toi, tu arrives sur les projets quand le scénario est écrit.
Voilà.
Ouais. Et il faut que tu illustres certaines scènes ou certains PNJ.
Certains lieux aussi. Soit je reçois un brief, en fait, un résumé descriptif du scénario, soit sinon, là pour Le Vent sur la frontière, il m'a fait jouer en fait directement le scénario et après on a pu faire un tour de table et je lui ai préconisé en fait des illustrations, des personnages à mettre en avant ou des lieux. L'île aux fleurs, c'était surtout un descriptif. Il savait vraiment ce qu'il voulait comme représentation des illustrations.
C'est compliqué de s'adapter à une vision qui n'est pas la nôtre.
C'est toujours un peu compliqué parce que quand on te donne le résumé, tu te l'appropries en fait et tu vois les choses à ta manière. Mais la personne qui est le créateur du scénario, il perçoit peut-être les choses à sa manière. Donc c'est déjà arrivé que des illustrations. Pour ça qu'il y a différentes étapes pour une illustration. On part pas tête baissée hein, parce que par le passé, on n'était pas forcément d'accord sur certaines illus et j'ai ma vision et elle a la sienne. Donc c'est normal que des fois ça bloque un peu. Mais bon. Faut trouver l'ajustement, quoi.
Ouais, il faut faire des petits croquis au départ plutôt que de partir sur 3 heures d'illu et se dire ah mince, ça match pas.
C'est indispensable de passer par une phase de croquis, de faire valider tout ça et que tout le monde s'y retrouve parce que sinon c'est une perte de temps pour tout le monde. Hein, donc,
c'est clair.
Donc ouais, c'est un bel exercice en tout cas.
Et t'étais rôliste avant ou t'es pas rôliste peut-être du tout?
Alors j'ai découvert le. Si je jouais en tant que j'étais plus joueur de jeux de rôle. J'ai vraiment découvert le jeu de rôle par le biais de mon beau-frère qui est dans l'association Les Aliénés de Cthulhu, qui masterise forcément l'univers de Lovecraft. Et il m'a refilé le virus du MJ. Après c'est surtout pour moi un prétexte narratif et de créer une ambiance, même si je maîtrise pas toutes les règles, et de pouvoir faire découvrir son propre univers ou l'univers des autres, en fait, c'est assez sympa, quoi.
Oui, c'est plus le voyage qui compte que le moyen d'y arriver.
Exactement.
Super. Hein.
Donc pour chaque fascicule, t'as deux illustrations couleur et puis une dizaine en noir et blanc.
C'est à peu près ça. Ouais, c'est trois illustrations couleur. Trois illustrations couleurs en comptant la couve aussi, hein. Puis après le reste en niveau de gris, ouais.
J'ai une question, en les ouvrant, je remarque qu'il y a toujours un plan à l'intérieur.
Ouais.
Est-ce que c'est une complexité de dessiner un plan ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt un plaisir
C'est les deux. Alors j'ai avec l'arbre cœur en fait, j'ai dû faire, qui n'est pas là d'ailleurs, hein,
c'est le seul qu'on voit pas.
Voilà, exactement. Ouais, parce que l'édition physique est épuisée, il m'en reste un chez moi, mais bon, voilà.
Collector,
un peu sous blister. Mais j'ai commencé à dessiner les plans avec fondu au noir et le premier plan c'était un exercice pour le vent sur la frontière. C'est vrai que le plan le Fort Bellanzo, donc là c'était un autre plan aussi.
Là, c'est l'architecture plus en fait.
L'architecture, mais aussi il y a un plan de plaine désolée qui a été dessiné avec les forts. Je l'ai pas. Si elle est là, voilà, en fin de scénario. Et je voulais vraiment des univers. Enfin les plans diffèrent pour chaque fascicule qui est vraiment leur que chaque fascicule ait son propre univers. Et du coup l'île aux fleurs, là on est parti sur du full couleur sur vraiment l'île entière. Donc j'avais pas fait ça jusqu'ici, parce qu'avant c'était que des teintes sépia ou des teintes bleues,
Là, c'est une invitation au voyage, hein, le plan de l'île aux fleurs.
C'est fait exprès, sachant qu'il n'y a pas de nom sur les lieux, il y a des petits éléments cachés. J'aime bien cacher des choses dans les dessins.
On peut la montrer aussi aux joueurs, alors peut-être, cette carte.
Complètement. Complètement. Sachant que il se passe pas mal de choses sur l'île. Il y a des décrets un peu stupides, donc on peut très bien voir des cartes sans mention de lieu, juste pour embêter le joueur, tout simplement, quoi.
Ou alors le joueur qui se trouve dans la petite maison qui est là, qui se dit tiens je vais aller au château à côté, et en fait c'est long d'y aller.
Ouais,
sur la carte c'était proche.
Il y a pas la notion de
distance. Pas d'échelle.
Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on fera peut-être après, mais bon en tout cas il y a pas cet élément là, ouais, effectivement.
On t'a retrouvé aussi au sommaire de Nock, qui est un MOOC fait par Éric Miodan et Olivier Revenu, ça.
Tout à fait, ouais.
Comment décrire l'objet? C'est à la base je crois qu'ils voulaient compiler des articles parus sur des blogs de la mouvance old school renaissance.
C'est ça.
Et puis ils ont fait, ils ont sorti trois gros MOOC en fait, hein, qui regroupent tout ça avec du matériel inédit aussi, je pense. Et toi, tu as été contacté pour illustrer certains articles.
J'ai été contacté par Olivier Revenu via Instagram, en fait. Merci les réseaux sociaux, qui m'a clairement demandé en me disant j'aime bien cette illustration du petit Viking et aussi j'aime bien aussi dessiner des comptes rendus de. Bon, je le fais moins parce que j'ai moins de temps. Et des comptes rendus de jeux de rôle. Et jouer à l'anneau unique, j'avais fait une planche avec des gobelins qui se foutent sur la tronche. Et il voulait cette page, cette scénette. Et je lui dis, il n'y a pas de souci. Puis bon, bah, tout de suite, je me suis intéressé au projet. J'ai fait, ah ouais, ils en ont fait deux. Ah ouais, mais c'est quand même c'est un superbe ouvrage. Ouais, c'est clair que ça m'intéresse. Et puis bon, bah, ça me fait de la visibilité. Donc ça s'est fait comme ça, quoi.
Moi, j'aime bien m'intéresser aussi à la façon dont les gens travaillent. C'est quoi tes techniques? Est-ce que tu étais plus tradi, numérique?
Alors, je mêle les deux. Je dessine, on va dire, 90% de mes dessins. Je les fais à l'encre de Chine.
Okay.
Donc, crayonné, encre de Chine. Je scanne mes dessins et après, je fais des colos numériques. Ça m'arrive de faire des originaux à l'aquarelle.
Là, on est sur la colo numérique sur l'île Flore?
Tout à fait.
Ok. Ben, enfin...
C'est du. Avec des calques Photoshop, voilà.
Ah, mais comme quoi maintenant la frontière en fait entre le numérique et le tradi est de plus en plus floue. C'est pour ça qu'en général je me foule pas, je pose la question,
je te réponds, parce que je sais que si je fais des choses à l'aquarelle, ça il y aura pas le même rendu, alors que bah en fait tu peux superposer autant de calques que tu veux en couleur avec Photoshop et puis bon bah voilà, puis je suis assez content de bosser comme ça en fait. Donc mais par contre j'ai toujours besoin de dessiner aussi à la main à l'encre de Chine, parce que tout faire à la tablette ça m'arrive, mais j'aime moi, j'ai l'impression de. Il n'y a pas forcément ma patte qui est présente.
Il n'y a peut-être pas le même ressenti sur le poids du crayon ou la façon dont. Comment dire. Les pleins, les déliés, les choses comme ça, c'est pas forcément de la même manière que
c'est ça.
Que ressenti. Tu nous as amené. Il y a plein d'illustrations en fait que tu as apportées. Il y a tout type d'inspiration. Tu parlais de l'anneau unique tout à l'heure. On a du Zelda ici. On a du Seigneur des Anneaux. Hein, on pas le rogue là-dessus. C'est quoi tes inspirations?
Pas mal de choses. Bon, les films hein, pour commencer. Ouais, j'ai été biberonné Seigneur des Anneaux. Par biberonné, non, j'étais pas vraiment. Non,
j'étais plus au biberon.
J'étais plus au biberon, mais bon, disons que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Zelda dans ma jeunesse. Et puis après, voilà, aussi, bah, culture vidéoludique, donc je suis un gros joueur aussi. Donc, que ce soit les Dark Souls, ce soit. J'en passe, Sekiro. The Last of Us, hein, là, je suis en train de travailler sur une illustration Shadow of Colossus. Et ah oui, j'aimerais bien, ouais. Donc là, c'est vraiment du fan art, mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir et puis de partager ça. Donc, je pioche un peu partout. Ça peut être aussi la musique. Des fois aussi, une chanson qui m'inspire quelque chose. Voilà, j'ai pas vraiment de. Je pioche un peu partout, en fait.
Ah, c'est top. C'est vrai que, tu parles de musique. Le côté se dire une musique va inspirer une illustration, on part d'un sentiment du coup d'une émotion et qui vient une image,
c'est ça, c'est ça. Puis des fois ça peut aussi donner aussi des idées à des scénarios de jeux de rôle ou autre, même de petites BD que je fais dans mon coin qui est pas encore édité, mais voilà, ça peut être des petits projets quoi. À partir d'une chanson tu te dis envie de développer quelque chose, quoi.
Oui, je me disais qu'aujourd'hui c'est l'Angers Geek Fest, alors tu as peut-être amené aussi plutôt des illustrations un peu du fan art, de la culture geek.
J'ai tout ramené en fait. C'est pour ça que je mets du temps à installer. Je ramène un peu de tout parce que pour que les gens puissent avoir le choix. Après, c'est sûr que là on est plus dans une cible. C'est sûr que du fan art ça intéresse plus le public. Mais il faut savoir aussi proposer aussi d'autres choses. Donc voilà, je ne fais pas que ça. Ça m'arrive aussi de faire des commissions sur place, les originaux. Donc voilà.
On retrouve ton style, je trouve, que tu fasses des illustrations plutôt jeunesse ou plutôt adulte, des trucs plus effrayants. Est-ce que des fois aussi tu fais peut-être pour des commandes des choses complètement différentes?
Complètement, ouais.
Des trucs improbables, des pirates de camions.
Non mais dans le style.
Alors, dans le style.
Après, il y a toujours ma patte, mais ça m'arrive de à côté, je suis aussi graphiste, donc je fais aussi des logos, donc c'est des choses. C'est pas forcément un univers où je suis plus à l'aise. C'est vrai que l'illustration, c'est là où je prends vraiment mon pied. Ça m'arrive de faire des fois des choses et on reconnaît pas forcément ma patte. Mais bon, sinon, la plupart du temps, si on reconnaît, parce que bon, Enfin voilà, c'est il y a de la brume partout. Non, mais bon, c'est que ça. Alors, en fait, je fais exprès d'avoir un style qui soit pas récupérable par mi-journée, juste pour l'histoire de les emmerder, en fait. Et puis, pour être serein par rapport à ça.
Mais ça peut être le sujet un petit peu polémique du truc. C'est toi qui l'as mentionné, t'as commencé.
Ouais,
hein.
Bah oui.
T'en penses quoi justement de cette mouvance et des éditeurs qui se disent bah tiens, peut-être qu'on va se passer des illustrateurs pour prendre des gens qui vont juste taper trois lignes sur une illustration toute faite.
Alors moi je trouve ça dommage déjà parce que bon, si je dois citer que le cas de Midjourney, j'en ai beaucoup parlé avec des confrères et consoeurs. Je trouve que c'est un formidable outil de recherche, ça, il n'y a pas de souci. Mais là où ça pose problème, c'est à partir du moment où on commence à vendre des illustrations créées par Midjourney, qui simplement s'approprie le travail des autres. C'est du pillage d'art pour moi. Et c'est du vol, tout simplement. Après, des logiciels qui font que bah, ça reste compliqué. C'est sûr que c'est pas forcément le même prix de passer par un logiciel, par une AI qui pense ça en tapant trois mots sur Google, que de passer par un illustrateur, une illustratrice qui a un tarif un peu plus élevé. Mais au moins, il y a une vraie entité derrière, quoi. Et c'est sûr que c'est un sujet à polémique, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de logiciel, bah, c'est cool, mais bon, ça tue le business aussi. Et en tant que jeune illustrateur, parce que je suis quand même jeune illustrateur quand même, bah, c'est sûr que ça me ferme des portes et bah, quelque part, ça contribue pas à notre développement.
À l'essor, ouais.
Voilà, complètement. Mais après, encore une fois, je trouve que c'est un outil qui est quand même assez impressionnant, qui peut être intéressant, mais il faut juste pas le. C'est à partir du moment où tu commercialises une illustration, tu payes 30 euros ou 20 euros à vie une illustration qui s'approprie le travail des autres. Pour moi, il y a un problème d'éthique et ça se fait pas, quoi. Donc c'est de la merde. Voilà.
Ça me va. J'ai vu j'ai échangé avec quelqu'un il y a pas si longtemps que ça qui me disait que lui, il se sert d'illustration Midjourney comme base. D'accord. Et après, il la retravaille, il la recomplexifie.
Bah, ça, je peux comprendre ça, ouais. Pour si tu veux une pose, une ambiance particulière, et après tu retravailles ton style par-dessus, pourquoi pas.
C'est comme s'inspirer de photos au final.
Oui, voilà, exactement. C'est moi, je le dis pour des illustrations. Tout sort pas de ma tête. Des fois, j'ai besoin de support aussi visuel. Je prends des photos. J'ai pas mal de livres. J'ai beaucoup de livres chez moi, donc je m'en imprègne. Aussi Internet, voilà. Mais surtout pas de plagiat, quoi. Pas reprendre des trucs tels quels ou dire j'ai fait ça alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place, quoi.
On parle peut-être un petit peu de jeu de rôle. Est-ce qu'il y a des éditeurs pour lesquels t'aimerais bien bosser au milieu du jeu de rôle?
Forcément, hein. Je pense à Agathe, Agathe Studio. Bon, après voilà, j'ai un style très mon style fait plus BD, donc je sais pas si ça rentre dans leur gamme, mais je sais qu'ils font des produits de qualité. Brancalonia dernièrement, gros coup de cœur. Et puis sinon, les ombres d'Estérène aussi, que j'ai découvert sur le tard. J'ai acheté toute la gamme, donc et les illustrations sont à tomber aussi, quoi. C'est vrai que quand j'achète des bouquins de jeux de rôle aussi, des fois c'est beaucoup pour les illustrations, la mise en page. Plus que leur contenu, des fois c'est vraiment pour voilà, l'objet aussi fait que ça suscite de l'intérêt, quoi.
Qu'est-ce que t'aimerais dans si tu avais quartier libre complètement sur un jeu de rôle, comment tu le concevrais graphiquement?
Ah, bonne question.
Sachant on lance les projets.
Ouais, mais sachant que j'ai un projet perso, c'est aussi je suis en train d'essayer d'écrire mon propre jeu de rôle.
Ok.
Je sais pas.
L'exclu.
Ouais, je sais pas par quel bout commencer. Alors je sais pas si je commence par les dessins ou la narration. Sachant que moi je suis plus illustrateur, je retranscris mes émotions par le dessin. Donc là c'est l'inverse. Faut aussi que le scénario soit travaillé, quoi, l'écrit soit travaillé. Pour répondre à ta question, je penserai à l'ensemble, en fait. Déjà directement de penser à l'ensemble, quel type d'illustration, comment faire la mise en page. Pour moi la mise en page c'est hyper important aussi. Faire un truc, quelque chose qui attire. Après, voilà, si c'est de la couleur, si c'est en noir et blanc, aucune idée. Mais ça dépend vraiment de l'univers dans lequel tu veux. L'univers que tu veux créer, quoi. Mais si tu me disais j'ai carte blanche, je pense que je me ferais plaisir et je tenterais plein de trucs graphiques que j'ai jamais tenté, quoi.
Ouais, t'expérimenterais quand même.
Complètement, ouais. Ouais. Bah, ce serait l'occasion parce que je me dis que j'aurais peut-être pas forcément des occasions comme ça toute ma vie.
Ouais.
Ouais. J'expérimenterais, ouais.
Et en parlant de projet, on a vu dans notre émission Manon Tardy qui nous avait parlé d'un livre-jeu érotique.
Donc vous êtes le héros ?
Ouais.
Tout à fait, ouais.
T'étais sur le projet ou pas ?
On est toujours sur le projet. Ah. Alors c'est un peu en pause parce que elle a des projets de son côté. Moi j'en ai eu aussi jusqu'ici aussi. L'île aux fleurs m'a pas mal occupé. J'ai d'autres projets qui vont commencer, mais c'est sûr qu'on va. On va repartir là-dessus, on va refaire un point et on aimerait aller au bout de ce projet et puis voir ce qu'on peut faire pour le financement participatif ou non, on a lancé le truc, on a signé un contrat, on ira jusqu'au bout, c'est sûr. Mais faut qu'on se recale là-dessus.
Il va falloir dessiner de l'érotisme.
Sans doute. Alors, soit ce sera suggéré. Soit ouais, après si, mais imaginons si s'il y a une campagne de financement participatif sur Ulule, après c'est Manon qui décidera, mais faut que ça se vende. S'il y a trop de boobs, j'ai peur que ça se soit un peu trop, que ça risque de, enfin je sais pas, mais c'est sûr que, alors déjà ça c'est clairement pas un registre que je voilà. fais. Donc j'aime me lancer des défis. Là je sors complètement des sentiers battus. Jusqu'ici j'ai dessiné, j'avais ramené quelques illustrations là aussi sur la clé. J'ai dessiné un jaguar, j'ai dessiné un temple. Voilà, bon c'est des choses, c'est pas très sexy. Des piranhas aussi. Je dois dessiner des illustrations un peu plus osées. Mais je le ferai. Mais après on verra ce que ça va donner, quoi.
Ok. Quels sont tes autres projets actuellement?
Bah après c'est des petites commandes pour des particuliers. Hein, donc voilà, faire des petites vies, puis proposer mes services en tant que mercenaire du dessin. Mais et sinon, faut que je dois avoir aussi un scénariste pour un projet de BD. On a dit qu'on faisait un point ensemble en début d'année. On est en début d'année, on est au mois d'avril.
L'année est bien avancée quand même.
Ouais, je lui avais dit que jusqu'à fin mars c'était compliqué. Bon bah écoute, fin mars c'était hier. Donc va falloir que je me penche sur le sujet, qu'on voit ce qui est réalisable pour potentiellement un projet de BD à présenter à des maisons d'édition. Donc à voir.
Ça c'est un exercice que t'as pas fait du tout en fait, la BD hein, actuellement.
Alors si, parce que qui m'a permis d'être auteur en fait, c'est que j'ai fait une petite BD à poster aux éditions Rockmout et éditions Pneumatique. C'est le concept, c'est une BD qui fait 5 par 8 cm de 14 pages en noir et blanc.
Ah oui.
On colle un tabre, on rabat le tout, on l'envoie par la poste.
Stylé.
Et j'ai fait une histoire muette sur un ronin qui y a une tempête et qui prend refuge dans un temple, mais bon, le temple est habité par des esprits tourmentés. Donc ça, il y a cette petite bande dessinée là. Et puis sinon, j'ai participé aussi aux deux ouvrages pour aux éditions Petit à Petit. Bon, après, c'est des collectifs. Donc il y a le guide de la Loire Atlantique illustré qui est sorti l'année dernière. Donc moi, j'ai participé sur une des parties. Et également aussi sur Pink Floyd qui est sorti
toujours chez Petit à Petit.
Toujours Petit à Petit, c'est vraiment, ils sont spécialisés dans la BD documentaire. Et voilà, donc j'ai dessiné un des chapitres sur dans Pink Floyd. Donc, voilà.
Ok. Sur une chanson particulière ou
Non, c'est juste un chapitre, une tranche de leur vie à la fin. Voilà. Bon après, il y a aussi d'autres projets. J'ai aussi un projet d'illustration jeunesse, mais faut que je prenne le temps de le dégager pour moi et de le présenter à des maisons d'édition. Mais j'aimerais bien faire un petit livre jeunesse pour. Parce que j'adore ça et voilà, faut que je sache par quel bout commencer.
On te retrouve au Salon Imaginaire, les 13-14 mai à Angers.
Bah bien sûr.
Et là, on aura donc l'île aux fleurs.
Exactement, il y aura du stock.
Super, on pourra se le faire dédicacer. On te retrouve sur les réseaux.
Bien sûr, Instagram, ArtStation, Facebook. Je suis assez réactif, présent, donc pas hésiter.
Merci.
Allez-y.
Merci Rakam.
Merci à vous en tout cas, les gars.
Bon festival. Bon Angers Geek Fest.
Ben, merci.
En entier ce morceau de Porcupine Tree, le choix de Rakamlo, Gravity Eyelids, puisque dans 2 minutes, ce sont les voix du Scénarium qui prennent l'antenne sur Radio G. Donc on se dit à dans 2 semaines avec comme invité les Bleers et Candice Roger. Et les Bleers, donc on peut retrouver bientôt Variété.
Variété, jeudi. Donc jeudi ouais. prochain, le 27, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, le 27.
Puis, le week-end d'après, ce sera West Hurlant, festival de littérature de l'imaginaire à Rennes.
Quel Pierre Marie va normalement.
Ouais, il y aura un stand effectivement tenu par Pierre Marie et Karine, hein, que vous connaissez bien, qui peint dans cette émission. Puis Pierre Marie aussi va animer une table ronde. C'est devenu un chef maintenant. Tout ça. Allez, les voix du Scénarium dans 1 minute sur Radio G. Salut.
À la prochaine.
À très vite.
Chaque samedi,
14h sur Radio G.
local.
Le Scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie.